Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi.
La feuille de route du gouvernement sera présentée dans quelques heures maintenant. Le discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale débutera à 15h. Il y sera bien sûr question du plan de relance dont les grandes lignes ont été tracées hier par le président de la République, Emmanuel Macron. On va en parler avec Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en plateau avec nous. Un mot d'abord sur l'ampleur de ce plan de relance, une enveloppe de 100 milliards d'euros qui inclut 35 milliards du plan européen, mais qui n'intègre pas les mesures de chômage partiel. Est-ce que les moyens mobilisés vous semblent à la hauteur des enjeux et des besoins de l'économie?
Ce qui est sûr, c'est qu'il a été mis sur la table beaucoup d'argent. Et cela a permis quand même un vrai soutien à l'économie dans une phase transitoire. Après, il s'agit de construire quelque chose pour l'avenir et de donner un cap. Et en tout cas, c'est tout l'objet, en fait, de ce plan de relance. C'est comment on peut l'articuler autour d'une nécessité économique. Évidemment, on le voit bien, elle est criante. Évidemment, une crise sociale qui peut arriver, qu'il faut éviter, pour pas, au final, déboucher sur une crise démocratique. Donc, l'enjeu est extrêmement important d'avoir un plan de relance bien calibré pour tenir compte des différents enjeux.
Une crise démocratique, pour vous, le risque va bien au-delà de la relance économique?
Disons que si jamais on ne répond pas à la crise économique, la crise sociale sera évidemment au rendez-vous avec beaucoup de chômage. Et derrière, cela peut engendrer évidemment beaucoup de mouvements divers et créer aussi une crise démocratique. Il faut l'éviter. Donc c'est d'où l'importance, et je pense qu'ils ont pris la mesure au gouvernement de cette importance, d'un plan de relance bien calibré pour tenir compte des enjeux d'une relance d'activité. Nous, on l'avait dit dans l'un de nos rapports, une relance de l'activité, évidemment, tout en préparant l'avenir, en tenant compte des enjeux aujourd'hui que l'on connaît en termes de fractures territoriales, fractures écologiques, climatiques, d'autres fractures concernant les jeunes aussi, qui est un vrai sujet de préoccupation aujourd'hui.
Sur les grandes orientations telles qu'elles ont été présentées hier par Emmanuel Macron, ça reste encore assez flou. Et d'ailleurs, c'est l'un des reproches qu'on a beaucoup entendu ce matin de la part des leaders de l'opposition.
Alors, je pense qu'il y a de l'espace, évidemment, pour le discours du Premier ministre pour cet après-midi. Il y a des points importants que nous, on avait au Conseil économique, social et environnemental bien pointé du doigt. Le sujet des jeunes est un vrai sujet sur lequel nous, on avait beaucoup insisté. Il y a une déscolarisation. Il y a aujourd'hui un vrai souci, évidemment, suite à l'épisode Covid, suite à la crise sanitaire. Il faut vraiment venir en aide à tous ces jeunes qui peuvent, évidemment, être sacrifiés dans cette crise. Et donc, il faut éviter cet écueil. Et il faut après avoir un certain nombre de mesures, évidemment, qui peuvent aller avec cela.
Alors, l'emploi des jeunes, justement, fait partie des priorités, notamment des exonérations de charges jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Pour les moins de 25 ans, le MEDEF souhaiterait un geste un peu plus large, c'est-à-dire au-delà de 25 ans et éventuellement au-delà de 1,6 fois le salaire minimum. Ça va néanmoins dans le bon sens?
Cela va dans le bon sens. Il faut sans doute imaginer d'autres, aussi pour les jeunes, d'autres mesures. Par exemple, sur l'apprentissage, il faut, à mon avis, absolument revisiter l'apprentissage et faire en sorte qu'on puisse de nouveau s'appuyer sur quelque chose qui peut être très important pour tous ces jeunes. Tout ce qui peut aller dans le sens de la formation, de l'accompagnement sera aussi le bienvenu. Il y a peut-être un certain nombre de services publics à réorganiser aussi pour leur permettre un meilleur atterrissage dans la vie active. Et puis nous, on était aussi sur la mise en place peut-être d'une mesure de soutien importante avec le revenu minimum garanti dès l'âge de 18 ans.
La priorité, donc, l'emploi des jeunes, que va-t-il se passer pour l'emploi tout court? Avec la multiplication des plans sociaux, on sait déjà que les prochains mois vont être extrêmement compliqués sur le front de l'emploi. La Banque de France anticipe un taux de chômage à plus de 10% à la fin de l'année, et avec un pic à 11,5% l'année prochaine.
Oui, c'est le grand risque. On s'en disait quelques mots tout de suite dans le démarrage de cette interview, mais clairement, le grand risque, il est là. C'est-à-dire la crise économique engendrant tout de suite derrière une crise sociale. Et donc, il faut absolument que le plan de relance permette à cette économie de repartir en choisissant les bons caps, là aussi, en ne se trompant pas de cap, mais permettre à cette économie de repartir. Évidemment, on est très dépendant de la crise sanitaire, très dépendant aussi de comment ce fameux virus va évoluer, est-ce qu'on va encore en subir un certain nombre de conséquences ou pas. Tout ceci doit aussi... on doit porter aussi une certaine attention dans les mesures, évidemment, de prévention sanitaire qu'on doit absolument maintenir si l'on veut ne pas retrouver des difficultés dans lesquelles on s'est plongé dès le printemps de cette année.
Ce plan de relance massif de 100 milliards d'euros comprend des volets industriels, écologiques, local, culturel, éducatif. Sur le volet écologique notamment, le président l'a dit hier, développer la filière hydrogène, développer de nouveaux moteurs, la rénovation thermique des bâtiments. C'est l'aspect positif de la crise, c'est-à-dire accélérer cette transition dont on a longtemps parlé, mais dont, honnêtement, on a quand même eu du mal à accoucher.
Il est important de prendre la mesure, évidemment, de la crise climatique, de la crise écologique dans laquelle, évidemment, on s'enfonce un peu plus mois après mois. Et donc, la relance de l'activité doit tenir compte de ces enjeux-là. Et donc, placer cette relance avec ce sujet de préoccupation nous paraît, nous, au Conseil, une bonne chose. En tout cas, nous, on l'encourage de façon à avoir quelque chose qui... pour le coup, amorce un virage. Alors évidemment, il faut l'amorcer en fonction de ce que chacun peut faire, mais il est important que ce virage puisse être amorcé.
Parmi les mesures pour l'environnement, notamment la rénovation des écoles et des EHPAD, d'ailleurs financée par les aides européennes, développement du fret ferroviaire, le retour des trains de nuit, le développement des petites lignes, un commentaire peut-être ?
Alors, je peux vous donner un sentiment personnel. Le fret ferroviaire, c'est un vieux sujet. Beaucoup de gouvernements en ont parlé. Il y a eu auparavant même parfois une ambition très importante de le développer. Ça nécessite quand même une réflexion de fond très importante. Ça nécessite aussi des investissements assez conséquents. Si on veut évidemment choisir cette solution-là. C'est pas une solution uniquement sur des trains de nuit. À mon avis, ça va au-delà des trains de nuit, si on veut avoir une solution qui soit efficace avec le fret ferroviaire. Mais ça me paraît une belle idée qu'à un moment donné, enfin, on puisse développer le fret ferroviaire. Il n'a jamais fait que de diminuer d'année en année. Donc, ça serait un vrai virage, celui-là.
La consommation, évidemment, c'est l'une des clés de la reprise. Est-ce qu'à votre avis, il faut des mesures spécifiques pour relancer la consommation, notamment pour inciter les ménages à dépenser leur épargne ? La Banque de France nous dit qu'il y a un réservoir de consommation d'environ 5 points de PIB. C'est considérable.
C'est très important. Dans un pays comme la France, où évidemment l'activité autour de la consommation est très importante, il faut avoir des mesures qui soutiennent cette consommation. Mais la consommation va avec la confiance. D'où évidemment l'acceptation de ce plan de relance et qu'on comprenne bien qu'à travers ce plan de relance, non seulement on soutient l'activité, mais aussi évidemment des mesures vis-à-vis de la consommation qui moi me paraissent aussi importantes.
Mais la confiance, ça ne se décrète pas. Comment est-ce qu'on peut restaurer la confiance ?
La confiance ne se décrète pas, c'est à travers des actes, à travers leurs décisions et la compréhension de ces décisions. Il faut attendre encore quelques heures avant de savoir un peu plus.
Les impôts de production, ça aussi c'est un dossier important, C3S, CVAE. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a déjà indiqué qu'il y aurait un geste dans cette direction. Ça redonnerait évidemment de la compétitivité aux entreprises. Et dans le cas de la C3S, la contribution sociale de solidarité des entreprises, ça supprimerait un impôt que beaucoup d'économistes trouvent aberrant. Il est calculé sur le chiffre d'affaires, ce qui veut dire que les entreprises le paient, qu'elles dégagent ou non des bénéfices. Vous pensez qu'il faudrait le supprimer ?
Alors, chaque fois que l'on parle de supprimer un impôt, il faut toujours en mesurer les conséquences et voir par quoi on le remplace. Donc, nous, dans la position que l'on a au Conseil économique, social et environnemental, c'est de peut-être revoir cette fiscalité dans son ensemble pour évidemment avoir un niveau de justice sociale peut-être plus important. Mais il faut bien imaginer toutes les conséquences de la suppression d'un impôt. C'est souvent plus compliqué qu'il n'y paraît au premier abord.
Cet impôt sert notamment à financer les régions. Et là, c'est le financement, c'est toute la question de la fiscalité locale qui est remise en cause.
C'est la question évidemment de la fiscalité locale, de ce qu'il peuvent faire, régions, départements. Il y a aussi besoin sûrement de clarifier les rôles de notre rapport annuel sur l'état de la France que l'on produit chaque année. On parle bien d'une meilleure articulation des différents niveaux entre eux et évidemment avec les fiscalités qui leur permettent de pouvoir se développer.
On a l'impression malgré tout que la question des régions revient sur le devant de la scène alors que clairement c'était pas une priorité du début du mandat d'Emmanuel Macron.
On est dans un pays assez jacobin, donc il faut imaginer qu'à un moment donné un peu de confiance confiance soit donnée dans ces différents échelons avec une bonne répartition des compétences.
On va marquer une pause et on continuera après sur les mesures qui devraient être annoncées, notamment la question des plus riches. Pas question d'augmenter la fiscalité pour les plus riches. Emmanuel Macron a déjà tranché la question. À tout de suite.
BFM Business, midi, leur H. Stéphane Pedrazzi.
Les réformes qui vont être annoncées cet après-midi, la feuille de route du gouvernement présentée par Jean Castex à partir de 15h à l'Assemblée nationale. On va continuer d'en parler avec Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental. La question d'une taxation des plus riches, elle a déjà été tranchée par Emmanuel Macron. C'est une question très politique, presque philosophique. Emmanuel Macron n'en a pas l'intention. Il est convaincu du lien entre richesse, investissement et activité économique. Pour autant, est-ce que vous pensez qu'avec ce choix, il va renforcer encore son image de président des riches ?
Ce qui est, c'est sûr, le gain de ce type d'impôt n'est jamais énorme. Parfois, ça a plus valeur de symbole plus qu'autre chose.
Là, on parle de l'ISF.
On parle de l'ISF, oui, bien sûr. Enfin, tout type d'impôt, il ne faut juste pas oublier que la France est quand même le pays le plus imposé à l'heure actuelle parmi, je dirais, quasiment tous les pays du monde. Donc, c'est un sujet, évidemment, qu'il faut regarder avec beaucoup de précaution. Il y a plus, parfois, besoin de regarder des sujets de solidarité par rapport aux des vulnérabilités. C'est comment on peut répondre à ces sujets-là et comment l'impôt qui est perçu puisse peut-être mieux irriguer ceux qui en ont le plus besoin. Et de ce point de vue-là, il y a peut-être des choses à regarder plutôt que d'aller rechercher peut-être encore une masse d'impôts plus importante.
Après la...
Il y a vraiment peut-être dans la capacité de redistribuer les choses, il y a peut-être davantage de choses à regarder. En tout cas, c'est ce qu'on a dit, nous, au Conseil économique, social et environnemental, c'est voilà, comment on peut peut-être régler différents curseurs, comment on peut peut-être aller vers plus de justice sociale. Donc comment on retraite cet impôt-là, c'est un vrai sujet, évidemment, pour le gouvernement.
François Hollande, qui avait créé une tranche d'impôt à 75% pendant 2 ans pour les plus riches, c'était une erreur.
C'était un symbole à un moment donné, oui.
Économiquement.
À un moment donné, il est revenu dessus et on voit bien que les choses ont retrouvé une normalité. Quand on tombe dans l'excès, ça peut poser évidemment quelques soucis sur le long terme, tout au moins.
Les dividendes, là encore, pas de geste fort, comme le réclame pourtant l'opposition de gauche. Emmanuel Macron réclame une politique de modération pour les dividendes, mais pas d'encadrement forcé.
En tant que chef d'entreprise, parce que je suis chef d'entreprise, je pense qu'il doit toujours y avoir une relation entre le versement du dividende et évidemment les politiques salariales. Elles ne peuvent pas être déconnectées. Il est important de pouvoir distribuer des dividendes si on veut avoir des investissements, évidemment, au sein de son entreprise, pour capter des investisseurs. Mais il est important aussi d'avoir la paix sociale. Donc il y a toujours une relation à avoir, une réflexion à avoir entre le dividende versé et la politique, évidemment, salariale d'une entreprise.
Une question qui a beaucoup été commentée ces derniers jours, c'est la question des réformes. Emmanuel Macron a précisé hier que la France ne pourrait pas faire l'objet d'une réforme, faire l'économie d'une réforme des retraites et donc pas question d'abandonner. En revanche, sur le timing, ça doit être une des priorités.
Clairement, il faut se retourner vers les partenaires sociaux. Ils ont un rôle important à jouer dans cette réflexion. Je crois que c'est le choix qui a été fait, et avec, en particulier avec ce nouveau gouvernement, de vraiment de s'appuyer sur les partenaires sociaux, peut-être de revoir aussi le sujet dans sa totalité, parce que il est remis sur la table, mais pas l'identique. Donc ça a été dit par le président de la République. Donc il y a une discussion, me semble-t-il, qui est très ouverte. À mon avis, ça passe, c'est mon sentiment, il faut absolument que ça passe par les partenaires sociaux qui ont évidemment un rôle à jouer très important dans les solutions qui doivent permettre de trouver, je dirais, une solution pour l'avenir, mais en même temps qui soit acceptée par tout le monde. Et comprise par tout le monde, parce que le sujet retraite, il y a peu de curseurs à jouer, mais c'est en même temps d'une énorme complexité.
Réforme paramétrique, ça fait partie de la feuille de route, hein. Jean Castex l'a déjà annoncé, il veut discuter avec les partenaires sociaux. Le MEDEF, lui, estime que c'est pas la priorité à court terme.
C'est un sujet de difficulté pour les partenaires sociaux, quels qu'ils soient. Donc, quels qu'ils soient, que ce soit MEDEF ou organisations syndicales, ont plutôt exprimé une certaine prudence par rapport à ce sujet dans les circonstances actuelles. Je pense qu'il faut les écouter. En même temps, si le gouvernement souhaite avancer, il faudra prendre en compte, évidemment, ce que les uns et les autres pensent sur le sujet.
Vous parliez au début de risque social. Oui. Revenir sur cette réforme, rediscuter avec les partenaires sociaux, est-ce qu'il n'y a pas un risque de mettre à nouveau le feu aux poudres dans un contexte où, clairement, on ne peut pas se permettre une autre crise des Gilets jaunes ?
Aujourd'hui, tous les sujets de réforme peuvent être prétexte à des tensions. Donc il faut juste s'assurer de l'acceptation de la réforme. À mon avis, le vrai sujet, il est là. Et pour qu'une réforme soit acceptée, elle doit être comprise. Et malheureusement, sur le sujet des retraites, on vient de l'évoquer, c'est souvent dans la non-compréhension des conséquences pour chacun qu'à un moment donné, on crée évidemment cette insécurité. Et il faudrait que chacun puisse individuellement dire, c'est les conséquences que ça a pour moi. Et on voit bien la difficulté de l'exercice, puisque c'est pas simple à réaliser, quoi.
Mmh. Emmanuel Macron a clairement dit qu'il allait poursuivre les réformes. La question s'est posée, elle a beaucoup été commentée, je le disais. Néanmoins, est-ce que la crise sanitaire n'a pas changé la donne et imposerait tout de même de revoir ce calendrier de réforme ? Taux de chômage à 11,5%, on n'est plus du tout dans le même scénario économique.
C'est plus le même scénario. Personne n'avait prévu une crise de cette ampleur. Elle est au niveau mondial. On n'en connaît pas encore toute la profondeur. Aujourd'hui, ils ont pris des mesures d'urgence. Il y a quand même une masse d'argent très significative qui a été mise sur la table. On le voit bien avec la réforme de l'hôpital, où plus de 8 milliards ont été mis sur la table. Globalement, lorsqu'on regarde les sommes mises sur la table pour passer à la crise, elles sont quand même d'importance. Évidemment, on ne peut pas imaginer que ce soit un puits sans fond et que derrière, tout ceci puisse perdurer et qu'on fasse fonctionner la machine à billets de cette façon-là sans qu'à un moment donné, c'est des conséquences. Il y a le risque d'un retour de l'inflation très important. Certains l'expriment, donc il faut y faire attention. Et donc, on est en tête quand même de savoir comment on doit moderniser le pays. Ça me paraît un point évidemment important et c'est de leur responsabilité. Après, on en revient toujours au même sujet, c'est comment on peut présenter des réformes qui soient comprises et acceptées par tous. Donc il y a un cap à redéfinir, et c'est peut-être justement dans l'acceptation de ce cap qu'est toute la difficulté.
La question de la dette, est-ce que ça vous inquiète? On est en train de creuser les déficits de manière considérable. Vous êtes président du Conseil économique, social et environnemental. Vous avez forcément un avis sur la question.
À titre personnel, dès que je crée de la dette, à titre personnel, ça m'inquiète. Donc, on peut aller au-delà de ce principe. Mm-hmm. Bien sûr, au niveau d'une nation, au niveau mondial, la création de ces masses monétaires et de faire fonctionner les planches à billets comme on fait fonctionner, c'est un vrai sujet de vigilance.
Il n'y a pas d'argent gratuit, nous ont dit.
À un moment donné, il n'y a pas de système qu'on met en place sans qu'il y ait un minimum de conséquences derrière.
Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer néanmoins de parquer cette dette dans le bilan des banques centrales, par exemple ?
Oui, mais bon, est-ce que ce système-là ne peut pas connaître des limites à un moment donné ? La question mérite d'être posée. Et en même temps, il est important on le voit bien, c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire, il faut pouvoir utiliser ces bases d'argent à bon escient pour pouvoir redonner la confiance et relancer l'économie et puis permettre après peut-être de revenir à la diminution de cette dette. Donc c'est un cercle vertueux à remettre en place sur lequel on doit aller.
La question de la pandémie reste toujours le point d'interrogation principal, notamment pour l'économie. Emmanuel Macron souhaite rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics dès le 1er août. Il a évoqué hier un taux de contamination, le fameux R0, au-dessus de 1, ce qui veut dire qu'une personne contaminée, on contamine une autre, plus d'une autre. Vous êtes inquiet d'une possible deuxième vague et de ses conséquences sur l'économie. On sait déjà, le Premier ministre l'a dit, il n'y aura pas de reconfinement total. Mais même avec un confinement partiel, c'est très mauvais pour l'économie.
C'est un vrai sujet d'inquiétude, parce que des reconfinements ponctuels, ça peut avoir des conséquences localement pour un grand nombre d'entreprises. Si ça a des conséquences pour des entreprises, ça aura des conséquences sur l'emploi, et ainsi de suite. Donc oui, tout ce sujet-là est inquiétant. Il faut que je pense que chaque Française et chaque Français prennent bien en considération ce risque et à un moment donné suivent les principes de règles sanitaires évidents qu'il faut absolument respecter.
Pour l'économie, quel est votre scénario central? Aujourd'hui,
pour l'économie, je pense que d'abord, c'est plutôt une option de faire confiance d'abord à la capacité de la France à pouvoir passer ce cap, et je pense qu'elle les a, elle a des atouts, la France. On est très bon dans la recherche, on a des atouts dans le monde agricole, on a beaucoup d'atouts. On peut faire confiance à ce pays qui a une capacité souvent à rebondir, même dans la pire des situations. Et donc, c'est plutôt une question de confiance, d'optimisme et de qu'il faut mettre en place. Et pour ça, on a besoin d'une bonne politique qui soit comprise par le plus grand nombre.
Mais je pensais plutôt au profil de la courbe. Alors, on a utilisé toutes les lettres de l'alphabet, probablement.
Dès que vous demandez à un économiste de vous faire une projection à 6 mois ou 8 mois, souvent, elle s'avère pas toujours très vraie. Donc, j'ai pas de boule de cristal là-dessus.
Donc vous préférez rester prudent sur le scénario de reprise?
Très prudent. Faisons avec ce que l'on connaît, et en fonction de ce qu'on connaît, essayons d'avancer. On ne peut fonctionner que de cette façon-là.
Certains secteurs sont néanmoins très inquiets. On en parlera tout à l'heure avec le secteur du commerce, mais beaucoup de commerçants sont très très inquiets des perspectives et certains nous disent qu'en cas de deuxième vague et de reconfinement, ils mettront la clé sous la porte.
Ah oui, je pense que déjà la crise va avoir des conséquences très importantes dans un certain nombre de secteurs économiques. Le petit commerce est évidemment un secteur extrêmement touché. Tout ce qui est autour de l'événementiel, des voyages, du tourisme. Faut pas oublier que ce pays est quand même la première destination au monde en termes de tourisme. Donc évidemment, tout ceci est de nature ne sont pas les bons appuis sur lesquels, pour l'instant, on peut vraiment s'appuyer et pouvoir, pourtant, que cette crise puisse se traverser et pour eux aussi.
J'aimerais qu'on termine avec un sujet qui vous concerne directement, c'est la réforme du Conseil économique, social et environnemental. Dès la rentrée, il en sera question. Expliquez-nous d'abord quel est l'objectif de cette réforme.
L'objectif de la réforme du Conseil économique, social et environnemental, clairement, c'est de faire du Conseil économique, social et environnemental le lieu de la, je dirais, du lien entre le citoyen et les pouvoirs publics. Faire en sorte que ce soit le lieu du débat public. Et pour ce faire, c'est l'endroit où on pourrait institutionnaliser, en particulier, tout ce qui est participation citoyenne. On l'a déjà bien expérimenté à travers, par exemple, toutes les pétitions qu'on a pu suivre et traiter. On l'a fait aussi dans le cadre, évidemment, de la Convention citoyenne, avec les fameux 150 citoyens qui ont été tirés au sort. Voilà, il y a... À un moment donné, il faut institutionnaliser ce genre de processus pour qu'à un moment donné aussi, ça puisse être efficace dans le processus institutionnel. Il faut bien faire fonctionner, en fait, ce qu'on appelle la démocratie représentative avec l'Assemblée nationale et le Sénat, et la démocratie participative. Et il y a un lieu pour ça, c'est le Conseil économique, social et environnemental. L'objet de la réforme, c'est cela, clarifier les rôles de chacun de façon complémentaire et faire du lieu, je dirais, du CESE un lieu de débat pour une meilleure prise en compte de la société civile dans toutes ses dimensions, qu'elle soit organisée ou pas.
Et est-ce que cette réforme, elle n'aurait pas dû intervenir plus tôt ? Ce trait d'union entre la population et les instances représentatives aurait été particulièrement utile pendant la crise des Gilets jaunes et aussi utile dans la construction de ce plan de relance.
Il y avait, dès le début du mandat du président de la République, dans la réforme constitutionnelle, le projet de la réforme du CESE. Malheureusement, des événements ont fait que cette réforme n'a pas pu aboutir.
Vous le regrettez ? Que ça ne soit pas
bien sûr, que je le regrette. Parce que nous, au CESE, on était très demandeurs de cette modernisation. C'est pour ça qu'on a travaillé immédiatement à la mise en place d'une loi organique qui va permettre la modernisation du CESE. On va peut-être pas aller aussi loin en termes de réforme que si on avait le point d'appui d'une réforme constitutionnelle, mais ça va permettre vraiment au CESE d'être justement d'incarner ce trait d'union entre les citoyens et puis les pouvoirs publics.
Merci beaucoup, Patrick Bernasconi. On se reverra pour parler de cette réforme quand elle sera effective. Je rappelle que vous êtes président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. On marque une pause. Dans un instant, un point sur l'actualité. Et puis juste après, nous parlerons du café. Le saviez-vous, 94% des Français boivent du café. Et dans le monde, c'est la deuxième boisson la plus consommée après l'eau. On en parle avec le directeur général de Carte Noire tout à l'heure.
BFM Business, midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi.
Comment le secteur du café a-t-il traversé la crise sanitaire ? La question concerne pratiquement tous les Français, puisque nous sommes 94% à consommer du café. C'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l'eau. En France, nous achetons en moyenne 5,4 kilos de café par an et par personne. Et sachez qu'en bourse, pour les financiers, le café occupe la deuxième place parmi les matières premières cotées en bourse, derrière le pétrole qui, évidemment, reste numéro un. Maurizio Cosolino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Carte Noire, ça fait partie du groupe Lavazza. Avec la fermeture des cafés, des restaurants et le recours massif au télétravail, on pourrait penser que la consommation de café a diminué pendant la période de confinement et au contraire, les ventes de café dans les hypermarchés, dans la grande distribution, ont augmenté de 24% et de 44% même pour la marque Carte Noire. Ça veut dire qu'on a consommé à la maison ce qu'on consommait généralement à l'extérieur ?
Tout à fait. Oui, en effet, la consommation de café n'a pas changé beaucoup pendant la période de crise. Il faut dire qu'il y a eu un transfert de consommation entre les réseaux hors domicile et la consommation à la maison. notamment avec certaines occasions spécifiques, c'est-à-dire le café après-déjeuner et le café de la pause pendant l'après-midi, qui ont été directement transférés dans les réseaux de la consommation à domicile.
C'est-à-dire que les Français ont gardé leurs habitudes, mêmes horaires, même en étant à la maison, même en étant en télétravail ?
Oui, en effet, toutes les études, toutes les données dont on dispose nous disent ça. En effet, c'est confirmé. Ça vaut naturellement pour le global du café, ça vaut naturellement pour carte noire et pour la consommation des cartes noires, surtout dans certains segments spécifiques.
Alors, vous parlez d'un report de consommation au global. Si on prend toute la consommation de café, est-ce qu'on est resté neutre, stable pendant cette période ?
Oui, à peu près. Oui, avec à peu près la consommation restée stable, avec une petite baisse en volume, je dirais, mais au global, c'est plutôt stable.
Alors, les marges ne sont pas les mêmes en CHR et dans la grande distribution. Du coup, quel sera l'impact économique pour la marque carte noire ?
Alors, pour la marque carte noire, tout d'abord, il faut dire, comme vous avez bien noté, il y a eu pendant la crise une hausse énorme des consommations, c'est-à-dire à mesure du 44% pendant le mois de mars. Juste pour donner un exemple, ça fait partie aussi du rôle de la marque, c'est-à-dire que le rôle des marques qui sont leaders est toujours un rôle de rassurance. Les acheteurs cherchent quelque chose qu'ils connaissent ou qu'ils reconnaissent, pour être plus précis, et donc Carte Noire a naturellement bénéficié de ça.
Vous avez continué de produire du café pendant le confinement. C'est un produit, on le rappelle, de première nécessité. Beaucoup de groupes industriels se sont posé la question pendant la crise de la supply chain. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les fournisseurs à l'autre bout de la planète, ça pouvait être moins cher financièrement donc, mais ça représente aussi un risque logistique non négligeable. Alors pour le café, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut produire en France métropolitaine, mais c'est pas non plus un produit qu'on peut stocker ad vitam aeternam. Donc comment est-ce que vous vous êtes organisé en matière de supply chain ?
Oui, ça a été un des aspects les plus importants pendant la crise. Sur cet aspect, il faut dire qu'on n'a pas eu de problème, de rupture, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fermé, en effet. On a continué la production, on a pu assurer la production et je veux souligner, il y a trois facteurs par rapport à ça. Tout d'abord, on avait l'expérience de nos collègues en Italie, c'est-à-dire ils avaient anticipé le problème de la gestion de crise, donc à peu près de 2 semaines. Donc,
c'est-à-dire protection des salariés,
oui,
masques, gel hydroalcoolique,
oui,
etc.
Exactement, pas seulement par rapport aux consignes sanitaires, mais aussi pour l'organisation du travail, surtout dans les sites de production, qui dans le cas des cartes noires, est le site de l'Aveyron qui se trouve dans la région de l'Hérault. Donc il y a un aspect qui est planification, préparation. Le deuxième aspect, c'est Carte Noire est une marque multisegment, c'est-à-dire on a bénéficié de la présence de la marque dans tous les segments du café. Mm-hmm. Donc même si un segment avait une hausse de vente particulière, il y avait aussi d'autres segments pour choisir la marque. Le troisième aspect est aussi un aspect de modèle de business par rapport à la supply chain, c'est-à-dire nous, on a mis en place des mesures, mais on a naturellement bénéficié de toute l'expertise du réseau de nos partenaires de la grande distribution française, qui ont fait un travail exceptionnel et donc qui a permis d'avoir la disponibilité des produits.
Les questions sociales et environnementales semblent avoir été renforcées par la crise sanitaire. Est-ce que vous le constatez, vous, dans la demande des consommateurs ? Est-ce qu'ils ont acheté, par exemple, davantage de cafés bio ou des cafés dont les torréfacteurs sont à proximité ?
Oui, il faut dire qu'il y a des phénomènes qui sont en cours avec des tendances très bien consolidées qui ont accéléré pendant la crise. Notamment, le bio est un très clair exemple par rapport à ça. La tendance, la hausse des ventes de du segment bio a été encore plus forte par rapport à la catégorie café. On a, nous, en tant que Carte Noire, on a pu bénéficier de ça, étant donné qu'on est la première marque dans le segment bio, et donc on a vu de façon très claire cette tendance.
Est-ce que les habitudes de consommation, et là je pose la question sur une période beaucoup plus large et pas uniquement la période du confinement, est-ce que les habitudes de consommation sont en train d'évoluer après la folie des dosettes puis des capsules? On a l'impression que les Français reviennent aux paquets de café traditionnels, on le voit notamment dans les chiffres des ventes des machines expresso avec broyeur.
Oui, il faut dire qu'il y a des tendances en cours. Par exemple, le développement de l'offre de grains après le développement fantastique des dosettes, des capsules, représente aujourd'hui une tendance très forte, très bien évidente. Pendant la crise, cet aspect a un petit peu changé, c'est-à-dire le mix des segments du café préféré ont un petit peu changé. Il y a eu un retour aussi au café moulu traditionnel. Il y a certaines de ces tendances qu'on pense vont se consolider, continuer, et pour certains segments, on pense qu'on va rentrer plutôt dans la tendance historique des dernières années.
Merci beaucoup pour tous ces commentaires. C'est intéressant de faire un point sur le marché du café. Maurizio Gozzolino, directeur général de Carte Noire, qui fait donc partie du groupe Lavazza. C'est presque l'heure du café. Si vous êtes à table, restez avec nous. Dans un instant, on va parler des soldes. C'est aussi l'actualité de ce milieu de semaine.
BFM Business, midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi.
Le coup d'envoi aujourd'hui des soldes d'été 2020 dans un contexte évidemment très particulier en raison de la pandémie de coronavirus. Le secteur de l'habillement a été lourdement impacté par le confinement. On estime aujourd'hui que 16 000 emplois sont directement menacés. La période des soldes, donc, pour une durée de 4 semaines, pourrait néanmoins tenter d'accélérer le rebond de la consommation. On va en parler avec Bénédicte Boudet, déléguée générale de la Confédération des commerçants de France.
Bonjour.
Bonjour. D'abord un mot sur le calendrier. Les soldes vont durer 4 semaines avec un décalage de 3 semaines par rapport au calendrier initial en raison de la pandémie de coronavirus, mais aussi à la demande des petits commerçants qui souhaitaient, et on peut le comprendre, reprendre leur activité sans devoir directement casser les prix. C'était indispensable, selon vous, ce décalage? On sait que les grands groupe n'y était pas favorable.
Oui, tout à fait. C'était indispensable pour la survie de nombreux commerçants indépendants. Nous avions demandé le 22 juillet. Le 15 juillet est un très bon compromis. Le ministère de l'économie, Bruno Le Maire, a été à notre écoute pendant tout le long de cette crise. Et c'est vrai que c'était nécessaire pour que les commerçants indépendants qui n'ont pas les mêmes marges que les grandes enseignes puissent vendre à un prix normal pendant quelques semaines après ces 2 mois de fermeture qui les a vraiment traumatisés.
Est-ce que vous avez un premier retour? Est-ce qu'ils ont réellement bénéficié de ces périodes ou est-ce que les Français attendent tout simplement les soldes? Ils ont attendu davantage?
Alors la consommation a été, la reprise a été très difficile, hein, on va pas se le cacher, mais néanmoins sans ces quelques semaines un petit peu de bouffée d'air, ça aurait été encore plus compliqué. Donc ils ont pu limiter un petit peu la casse. Maintenant les stocks sont très importants, il y a eu des opérations commerciales également un peu dans toutes les grandes enseignes. Nous avions appelé, nous indépendants, un peu à une trêve des promotions pendant toute la période avant les soldes pour vraiment lancer vraiment les soldes comme une période festive avec toutes les Black les Fringe Days, les promotions, etc. Ça a été un petit peu plus laborieux.
Alors justement, vous parliez des promotions. Est-ce que les soldes ont encore un intérêt avec la multiplication des ventes privées qui généralement précèdent les soldes, les opérations commerciales, vous en avez cité quelques-uns, Black Fridays, French Days. Est-ce que les périodes de soldes très réglementées ont encore du sens? La question n'est pas nouvelle, hein, on se la pose depuis longtemps.
Et c'est une vraie question qu'il faut vraiment qu'on se pose. Nous, on y travaille beaucoup au sein de la Confédération des commerçants de France. Il faut maintenir les soldes comme un événement vraiment festif de consommation, de rendez-vous annuel. Est-ce que c'est sur un rythme de 2 fois par an? Est-ce que c'est plus fréquent? Est-ce que c'est 4 semaines, plus, moins? On y travaille beaucoup avec nos fédérations. Peut-être que la régionalisation a aussi à y gagner, puisque à Paris ou sur la côte, ce n'est pas forcément les mêmes dates. Aujourd'hui, ça ne satisfait personne. Les dates sont jugées trop tôt par beaucoup de commerçants, pas tous, mais beaucoup les jugent trop tôt dans la saison. Donc il faut mener une vraie réflexion pour que c'est vraiment un impact fort auprès des consommateurs.
Est-ce que cette orgie de consommation, que sont généralement les soldes, ont toujours le vent en poupe? On voit bien les magasins, lors des précédentes périodes, étaient relativement pleins, mais on se pose de plus en plus de questions, notamment dans l'habillement, la fast fashion, comme on l'appelle, qui consiste à jeter rapidement ces vêtements qu'on achète. Est-ce qu'il y a des préoccupations environnementales qui risquent aujourd'hui de prendre le dessus?
Oui, c'est également une réflexion qu'on mène avec tout ce qui est l'habillement, la consommation de l'habillement, peut-être consommer moins mais mieux, peut-être avec des filières responsables. La consommation, le changement des consommateurs est également important à prendre en compte. Les habitudes ont changé avec beaucoup d'achats en ligne, encore plus 17% l'année dernière d'achats en ligne, notamment pour le domaine de l'habillement. Donc il y a une réflexion à mener. Maintenant, les indépendants doivent s'adapter. Le digital fait également partie des modes de consommation et on doit en tenir compte.
Les soldes démarrent alors qu'on redoute une deuxième vague de coronavirus. Comment est-ce que les commerçants vont pouvoir assurer la sécurité de leurs clients s'il y a une forte, voire une très forte affluence dans certains magasins?
Alors déjà, nous saluons la décision du président de la République de rendre le masque obligatoire. C'était une demande que nous formulions depuis plusieurs semaines. C'est un acte fort et très rassurant.
Pourquoi?
parce qu'il faut que chacun soit protégé et que la consommation soit dans des conditions sereines et optimales.
Mais est-ce que ça ne libère pas les commerçants d'une pression ? Ils ne pouvaient pas exiger des clients qu'ils portent un masque si ce n'était pas obligatoire par ailleurs.
Exactement. Donc ouais. Là, c'est vrai qu'on a fait passer une note à toutes les fédérations pour leur dire, indiquer un petit panonceau masque obligatoire à l'entrée, mais on n'a pas de pouvoir de police. Donc il fallait vraiment un acte fort, un geste fort du gouvernement pour dire là maintenant c'est obligatoire et le plus tôt sera le mieux, dès maintenant, pour cette période de solde. Sortons tous consommer masqués, c'est vraiment une question de santé publique et économique, puisque un reconfinement même partiel serait une tragédie pour notre secteur.
Alors, on le rappelle d'ailleurs, votre président fait partie de ceux qui avaient réclamé au président de la République de rendre ce masque obligatoire. Où est-ce qu'on place le curseur en matière de sécurité sanitaire ? Je vais vous donner deux exemples. Si on fait la queue devant un magasin avant de pouvoir y entrer, on risque de perdre les achats d'impulsion. Et si on doit porter un masque, on doit mettre du gel hydroalcoolique, on va peut-être pas avoir envie d'essayer des vêtements. Et puis on a aussi peut-être peur que ces vêtements aient été essayés par d'autres.
Oui, alors les magasins ont mis en place des protocoles sanitaires assez précis. Pour le masque, je ne pense pas que ce soit vraiment une question. Ce sera plutôt pour la file d'attente. En effet, des fois, on voit quelqu'un dans le commerce, on va dire on repasse et on repasse pas, on va commander sur Internet, etc. Donc ça conduit à une vraie baisse de la consommation. Maintenant, tout ce qui est gestes sanitaires, le gel, etc., c'est des petits détails, entre guillemets.
Et on s'y habitue.
Et on s'y habitue. Il faut qu'on s'y habitue de toute façon.
En revanche, les commerçants devaient, au départ, c'était prévu en tout cas, mettre en quarantaine pendant au moins 24 heures les vêtements qui avait été essayé, je peux vous dire de ma propre expérience, c'est rarement le cas.
Oui, c'est pourtant quelque chose qu'on conseille, qui sont dans tous les protocoles. Donc après, c'est la responsabilité de chaque commerçant. Mais nous, on ne peut dire que respecter strictement les consignes. Il en va de la sécurité de tous.
Est-ce qu'on n'a pas joué un peu avec le feu? Et là, je vais prendre un autre exemple, pas dans l'habillement. Les restaurateurs où les clients sont de nouveau entassés, où les serveurs ne portent pas de masque, on le voit à Paris dans plein de restaurants. On comprend ce besoin de travailler, on comprend aussi la perte de chiffre d'affaires qu'on essaye de compenser. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de prendre un risque considérable? Vous le disiez, en cas de deuxième confinement, ça pourrait être fatal à beaucoup de commerçants.
Après, on ose espérer que ce soit des cas individuels, même si on fait beaucoup de focus là-dessus. Les restaurateurs sont très responsables. Ils ont vraiment été pénalisés pendant toutes ces semaines, après avec l'ouverture des terrasses dans un premier temps. Donc, je pense que quelques cas isolés ne doivent pas refléter la globalité
du
secteur.
Alors, quelques cas isolés, je suis désolé de vous interrompre, mais il suffit. Alors, on a beaucoup de terrasses maintenant dans Paris, ce qui crée donc de l'espace supplémentaire. Ça n'empêche pas que même en terrasse, et je peux vous dire à côté de chez moi, c'est le cas, les tables sont les unes sur les autres.
Oui, il y a des consignes normalement strictes. Donc, après, c'est les contrôles qui doivent prouver que tout se passe dans les meilleures règles. Ça, c'est la responsabilité de chacun et c'est vraiment important de respecter les protocoles sanitaires.
Et est-ce que vous le rappelez justement à vos adhérents ?
Oui, on a fait partir une note pas plus tard que lundi pour vraiment rappeler tous ces points de vigilance dans l'intérêt de tous, consommateurs, professionnels.
Beaucoup de commerçants vont malheureusement jouer leur survie. C'est ce que nous disent notamment certaines enseignes d'habillement. C'est-à-dire, si les soldes ne fonctionnent pas, si on devait être reconfiné, ils mettront la clé sous la porte. Aujourd'hui, 16 000 emplois sont menacés dans le secteur de l'habillement en France.
Oui, tout à fait. C'est vraiment un chiffre considérable. Et puis nous, on représente les indépendants. C'est des très petites entreprises qui ont moins de 11 salariés. Généralement, ce n'est pas des plans sociaux globaux d'une grande entreprise. Donc, c'est boutique par boutique, ce qui fait au final un énorme plan social d'une grande industrie.
D'accord.
Ça, c'est vraiment important. Et on est très vigilants. C'est entre 10 et 15% des commerces qui pourraient être menacés d'après CCI France. Là, il y a toute une première vague d'accompagnement. Le gouvernement a vraiment été à nos côtés pendant toute la crise sanitaire avec le fonds de solidarité, les différentes exonération. Il va y avoir une vague en octobre, novembre, quand les premiers remboursements vont devoir être effectués, notamment tout ce qui est report de charges, pour ceux qui n'auront pas eu la chance d'être exonérés. Et puis l'année prochaine, avec les remboursements, notamment du PGE, le prêt garanti par l'État, qui, même s'il peut être allongé, ça va être vraiment des points charnières où on va être très vigilant aux faillites.
Vous évoquez justement ces mesures de soutien du gouvernement. Est-ce que globalement, elles vous ont paru suffisantes ?
Oui, elles ont été quand même relativement suffisantes parce qu'elles ont visé les très petites entreprises, donc on était directement concernés. Après, ce qu'on demande notamment dans le plan en faveur du commerce, artisanat et les indépendants, c'est véritablement une communication forte pour rassurer les consommateurs, aller dans vos centres-villes, consommer dans les commerces de proximité. C'est prévu, mais on y compte beaucoup. Et puis le volet digitalisation qui est très important.
Alors justement, la crise, on a vu beaucoup de commerçants accélérer à marche forcée leur digitalisation. On a quand même l'impression que ça a renforcé l'opposition, la concurrence entre les commerces traditionnels que vous représentez et les mastodontes d'Internet.
Alors, il n'y a pas d'opposition l'un contre l'autre. Après, c'est vrai que la Confédération des commerçants de France, on dénonce, nous, les implantations un peu anarchistes, anarchiques de grands entrepôts type Amazon, Alibaba, etc., qui ont besoin d'un simple permis de construire pour construire ces 40 000, 100 000 mètres carrés d'entrepôts. Ils sont soumis à aucune taxation type TASCOM, aucune commission d'urbanisme. Et ça, c'est très important de rééquilibrer un petit peu les choses, avoir un juste équilibre aux normes en raison fiscale, de normes entre le commerce physique et le digital. Maintenant, les commerces physiques doivent avoir un site internet, ils doivent avoir ce volet-là, mais plutôt sur des plateformes locales et non pas des grands géants internationaux qui, en plus, fraudent la TVA, pour ne citer que ça.
On a vu des rapprochements dans les groupes d'habillement. Beaumanoir, notamment, qui est propriétaire de Morgan, a récemment repris la halle. C'est pas vrai pour les petits commerçants, quand ils ont des difficultés, généralement, ils ne peuvent pas compter sur un repreneur.
C'est très difficile parce qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a la faillite, qui est un vrai cas, la trésorerie ne suit plus. Et puis tout ce qui a transmission, reprise transmission également. Il y a beaucoup de commerçants qui vont arriver à l'âge de la retraite et il n'y a pas forcément de perspective de reprise. Donc ça, c'est un axe sur lequel on doit travailler et le gouvernement doit vraiment s'emparer de cela.
J'aimerais qu'on parle de la consommation. Vous avez des remontées de terrain, j'imagine. On a eu quelques indicateurs rassurants. D'abord, la consommation des ménages qui rebondit plus vite que prévu. À la fin du mois de mai, elle affichait un recul de 7,2% par rapport à la période d'avant le confinement. Ça reste évidemment considérable. Mais à titre de comparaison, en avril, le recul était de 62%. Et on est quand même sur une très nette amélioration. Même si c'est pas parfait, est-ce que les commerçants vous le disent quand même que la situation s'améliore peut-être plus vite qu'ils l'avaient espéré?
Ça reste difficile, mais on reste optimiste. Il y a eu beaucoup d'épargne, 60 milliards pendant ce confinement. Donc, on va voir comment se passent les soldes. Ça va être vraiment un événement crucial. Nous, on veut que ça marche. On espère que ça marche. Donc, on va tout faire pour que cette phase se passe dans les meilleures conditions possibles. C'est 4 semaines et puis on dressera un bilan à la fin.
Mmh. Est-ce que vous avez des informations sur ce phénomène de rattrapage? On dit parfois que les clients qui n'ont pas pu acheter certains produits pendant la crise l'achètent après. C'est vrai pour une voiture ou un lave-vaisselle, des biens d'équipement. Si on avait besoin d'un lave-vaisselle avant la crise, bon, on en a toujours besoin a priori. C'est pas vrai du tout pour la restauration. On ne va pas deux fois déjeuner au restaurant parce qu'on n'y est pas allé pendant la crise. Est-ce qu'on peut espérer dans l'habillement ce phénomène de rattrapage ?
Pour l'instant, ça ne s'est pas manifesté. Dans le secteur de l'habillement, le rattrapage est difficile à observer. Plutôt dans les questions d'équipement du foyer, les magasins de bricolage ont très bien marché, par exemple.
Mais là, ça concerne les grandes enseignes.
Exactement. Mais pour tout ce qui est indépendant, c'est difficile. Pour l'instant, on n'a pas vu de phénomène de rattrapage, sauf des urgences, comme par exemple les chaussures pour enfants. Il fallait chausser les enfants à la fin du confinement. Donc là, on a vu des achats assez massifs, mais ça reste assez anecdotique.
Qu'est-ce qui va changer, selon vous, dans le comportement des consommateurs après cette crise ?
Je pense que les consommateurs vont rechercher peut-être plus de proximité, de lien social. Ils ont été traumatisés eux aussi par ces 2 mois où il n'y avait aucun commerce dans les villes, sauf les biens essentiels. Donc je pense que ça va être vraiment une recherche de proximité, de conseils, vraiment quelque chose au plus proche vraiment des consommateurs, du citoyen. C'est ce qu'ils recherchent et c'est ce qu'on espère pour redynamiser les centres-villes.
Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, au contraire, que certaines habitudes de consommation en ligne qui se sont développées pendant la crise continuent?
Alors ça, c'est un risque. Les achats en ligne, pour une certaine partie de la population qui va prendre cette habitude, pas besoin d'essayer, en un clic, livraison en 24 heures, ça c'est quelque chose qui va être difficile à changer. C'est pour ça qu'il faut que nous, indépendants, on s'adapte. On ne peut pas changer le modèle du jour au lendemain.
Et un dernier mot, on en a parlé avec la fast fashion, mais est-ce que d'une manière générale, les préoccupations environnementales vont devenir, à votre avis, quelque chose qui va peser dans le facteur de choix de tel ou tel produit?
Ah oui, j'en suis convaincue. L'environnement, c'est même une prise de conscience de beaucoup de commerçants. Certains, par exemple, ne font pas de solde parce qu'ils estiment que voilà, ils ont des achats responsables, ils ont toute une stratégie sur le long de l'année. Donc c'est de plus en plus le cas et observable dans beaucoup de rues.
Merci beaucoup pour toutes ces infos, pour vos Merci commentaires. Bénédicte Boudet, déléguée générale de la Confédération des commerçants de France. C'est la fin de cette heure H. On se retrouve demain sur BFM Business à partir de midi. Très bonne journée.